Et je vous invite à ouvrir le plus merveilleux livre du monde, au psaume 134. Cantique des montées. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Et nous allons lire un deuxième passage, en fait, dont il est question ici, dans ce dernier verset. C'est dans le livre des Nombres, puisque ce passage ici fait référence à ce texte dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Et nous lirons les versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Sans bénédiction, pas de vie. Pas de vie. Et sans Saint-Esprit, pas de compréhension. Le thème de ce psaume est clair. Le verbe qui revient dans chaque verset de ce court psaume nous donne le thème du psaume. Vous l'aurez reconnu, c'est le verbe bénir. Ce verbe a souvent été pour moi un peu énigmatique, parce que nous pouvons l'utiliser pour parler d'une action de Dieu envers nous et d'une action de nous envers Dieu ou envers les autres. Mais la bénédiction de Dieu n'a pas la même portée que la nôtre. Alors afin de comprendre, d'entrer dans la compréhension, nous le verrons tout au long de la prédication, mais de cette différence, nous allons commencer par utiliser notre cinéma intérieur. Enfin, c'est notre imagination, en fait. Notre imagination. Alors imaginez. Imaginez, donc je vais vous dire quelque chose, essayez de l'imaginer. Le petit Liam de 1 an prend son papa dans les bras. Le petit Liam de 1 an prend son papa dans les bras. Peut-être que vous avez imaginé le petit garçon entourant très fort une jambe ou un bras de son papa. Maintenant imaginez. Le papa prend le petit Liam de 1 an dans ses bras. Le papa de Liam prend le petit Liam dans ses bras. Est-ce que vous avez imaginé le papa entourant très fort une jambe ou un bras de son enfant? Non. Vous avez imaginé le prendre dans ses bras et l'entourer de ses bras. Le verbe est le même. C'est le verbe prendre ici. Le verbe est le même. Il a la même signification, mais l'action n'est pas identique. Et cela dépend de la capacité. Le verbe est le même. Donc si jamais les enfants qui vous ont écrit, là, vont créer. Le verbe est le même et il a la même signification, mais l'action n'est pas identique, car cela dépend de la capacité de celui qui agit. Et il en est de même pour le verbe bénir. Jean bénit Dieu, ou Dieu bénit Jean, ne sont pas des actions identiques, car les deux sujets n'ont pas la même capacité. Dans ce cas, d'ailleurs, Jean n'aura jamais les capacités de Dieu de loin. Et ce psaume 134 nous parle justement de ce verbe bénir avec les deux sujets différents. Et c'est le dernier psaume intitulé « Cantique des montées ». Et le thème de ce psaume est comme un résumé des 14 cantiques qui ont précédé. Une conclusion de ces 14. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le premier point de cette prédication « Le dernier cantique des montées ». Ensuite, nous allons parler des deux aspects du verbe « bénir » que nous avons commencé à voir ensemble. Donc le deuxième point sera intitulé « Bénissez l'Éternel ». Et le troisième point, « Que l'Éternel te bénisse ». Voilà, assez simple, ça sort du texte. On va suivre simplement le texte. Commençons par le titre de ce psaume. Pour le premier point, le dernier cantique des montées. Si vous regardez dans vos Bibles, il commence par cantique des montées. Ou chant des montées ou cantique des degrés. Après, ça dépend des traductions. Mais dans nos Bibles, très souvent, nous avons des titres au chapitre. Est-ce que vous avez des titres en haut de chaque chapitre de votre Bible? Souvent, on en a maintenant. Pas dans toutes, mais quand même dans beaucoup de Bibles. Et en fait, ces titres ont été introduits par les éditeurs de la Bible. Ils ne sont pas inspirés. Ça ne fait pas partie du texte biblique. Simplement, ils sont mis pour qu'on puisse retrouver les sujets qui sont dans les chapitres ou les paragraphes en dessous de ces titres. Les psaumes 120 à 134, par contre, ont chacun un titre commun qui fait partie du texte biblique inspiré. Le titre « Cantique des montées », ce n'est pas l'éditeur qui l'a ajouté. Ça fait partie du texte biblique. C'est intéressant de voir que Dieu a permis, a voulu que ces psaumes aient ce titre, ce qui nous permet d'avoir en fait un petit livre des psaumes dans les psaumes, avec ces 15 psaumes en fait que nous avons. Et nous avions vu, lorsque nous avons commencé, les enfants, cette série, que c'était des chants entonnés par les pèlerins qui se dirigeaient vers Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple. C'était des chants entonnés par les pèlerins qui se dirigeaient vers Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple. Les Juifs devaient se rendre 3 fois par année à Jérusalem pour les fêtes principales. Est-ce que vous avez un endroit où vous allez 3 fois par année? C'est pas évident, hein? Mais j'ai trouvé un exemple. En fait, pour nous rendre compte, on peut réfléchir aux 3 rencontres annuelles que nous avons dans le cadre des églises réformées baptistes, hein, ouvertes à tous d'ailleurs, à tous ceux qui veulent venir. La journée de l'Ascension, le camp d'été et les conférences d'automne, où nous retrouvons les autres membres des églises réformées baptistes et ceux qui veulent y venir. Or, bien que cela soit bienfaisant et renouvelant, comme peuvent en témoigner ceux qui étaient au camp la semaine passée, et même si je recommande vivement à chacun qui le peut physiquement d'y participer, ce n'est pas une obligation demandée par Dieu. Donc, ces 3 rencontres des églises réformées baptistes. Les Juifs, par contre, avaient l'obligation, commandée par l'Éternel, de se rendre 3 fois par année à Jérusalem. Et les cantiques des montées sont une bénédiction pour le pèlerin qui va voyager pour se rendre à Jérusalem. Alors je ne sais pas, ceux qui sont allés au camp d'été, s'ils ont écouté les cantiques des montées jusqu'à Gap et ensuite en retour. Mais je veux dire, c'est l'idée de lorsqu'on se rend dans un lieu où on vit devant l'Éternel, eh bien en chantant des chants qui nous font penser à lui, comme nous le verrons, eh bien nous sommes bénis. Et nous allons un petit peu voir ces chants rapidement ensemble. Alors si jamais les enfants, pour chaque cantique, il y aura quelque chose à écrire. Alors maintenant, c'est un petit peu concentré là, hein, pour vous et pour les autres aussi. Mais le premier cantique, on va essayer de se souvenir de tout ce qu'on a vu, 14 cantiques qu'on a vus ensemble. On va les voir maintenant, petit à petit, simplement avec 1 ou 2 éléments clés. Le premier cantique, le 120, c'est assez simple de se souvenir parce qu'il indique le début du chemin, hein, ou comment le reprendre si on est parti de ce chemin. Et il était écrit « C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié ». Et il m'a répondu. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié, et il m'a répondu. Alors comme nous l'avions vu, il s'agit de sortir du train du monde et qui se dirige vers la perdition éternelle et emprunter le chemin qui conduit vers la Jérusalem céleste. Il faut sortir de ce train, je dis bien sortir, hein, et pas y rester en marchant dans les wagons dans le sens inverse de la marche du train. Pour essayer, hein, si vous êtes dans un train qui va de Bâle à Genève et que vous marchez en direction de Bâle dans le train, un jour vous arriverez quand même à Genève parce que le train va descendre cette direction-là. Il faut sortir du train du monde pour entrer dans le chemin qui mène à la Jérusalem céleste. Le deuxième cantique indiquait qui gardait le pèlerin, car il est écrit au psaume 127, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Quelle promesse extraordinaire, hein? L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Un psaume qui commençait par une question. Souvent le psaume 121, c'est ça qui vient en premier. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et bien sûr, nous le savons, comme nous venons de le voir, qu'il vient de l'Éternel. Le troisième cantique stimule l'avance du pèlerin dans son chemin, en lui faisant chanter « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Hein? Quand vous avez de la joie à faire quelque chose, ben vous avez envie d'y aller. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et il se dirige vers son lieu de joie et de paix, et c'est décrit dans le psaume 122. Le quatrième cantique permet aux pèlerins de comprendre que la route ne sera pas toujours facile. Mais face au mépris, le psaume 123 met ses paroles dans la bouche du pèlerin, puisqu'il les chantait, hein, donc il les met dans sa bouche et dans son cœur, qui dit ceci: « Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. » Et nous avions vu particulièrement dans les situations où le pèlerin était méprisé par d'autres. Le cinquième donne l'assurance au pèlerin qui est reconnaissant pour la délivrance. Important d'être reconnaissant pour la délivrance que Dieu donne. Et là, nous avions vu ensemble, et c'est dans le texte que le pèlerin chante, il dit « Sans l'Éternel qui était pour nous, nous aurions été détruits. » Sans l'Éternel qui était pour nous, nous aurions été détruits. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. C'est ce que chante le pèlerin au psaume 124. Ça va les enfants, vous arrivez à suivre? Ok, on continue. Le sixième cantique. Sixième cantique met des paroles de confiance dans la bouche du pèlerin. Il a un fondement inébranlable, un bouclier qui n'a aucune brèche. Et voici ce qu'il a dit. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas et qui subsiste à toujours. Le septième cantique stimule l'espérance du pèlerin qui sème avec larmes, mais qui sait qu'il moissonnera avec joie. Il sème avec larmes, c'est vrai, mais il sait qu'il moissonnera dans une grande joie. Le meilleur est devant nous, mes chers frères et sœurs. La Jérusalem céleste sera un lieu de joie. Et j'aime à dire, le meilleur est devant nous. C'est vrai qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a entre deux, mais le meilleur est devant nous. Le huitième cantique encourage le pèlerin à ne pas travailler pour son propre royaume, mais pour celui qui fera réussir tout ce qu'il entreprendra. Parce que lorsqu'on travaille pour son royaume, ça réussit pas forcément. Ou en tout cas souvent, ou quasiment toujours, ça réussit pas de manière à nous faire progresser vers Dieu. Hein? Non, mais il est appelé à travailler pour celui qui réussit tout ce qu'il entreprendra. Voilà pourquoi le psaume 126 commence par « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est fort quand même, hein? Mais c'est tellement vrai. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et le pèlerin est encouragé dans son cheminement d'avoir cet objectif, que ce soit l'Éternel qui soit son divin architecte de la maison qu'il construit. Le neuvième cantique parle du bonheur et met des paroles engageantes dans la bouche du pèlerin. Il dit « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies ». Il est parlé de bonheur. Nous avions vu ça ensemble. Le bonheur, c'est de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Heureux, quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Le dixième cantique indique que le pèlerin peut demander à Dieu de rendre les actions des oppresseurs inefficaces. Personne ne veut du mal. On peut demander à Dieu, Seigneur, fais que leur projet ne se réalise pas. Le voyageur chantera alors, l'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants. Le onzième cantique invite le pèlerin à puiser à la source du pardon. Il chante que le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Et il termine ce chant dans lequel il aspire de tout son cœur à la délivrance de son péché en disant « C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. » C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Et nous savons aujourd'hui que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Le douzième cantique indique aux pèlerins ce qu'il doit vivre pour ne pas tomber dans l'orgueil. Et en fait, placer notre espérance en l'Éternel, c'est l'antidote à l'orgueil qui place son espérance en soi. Placer son espérance en l'Éternel, c'est l'antidote à l'orgueil qui place son espérance en soi. Et placer notre espérance en Dieu, c'est trouver le contentement, le repos de nos âmes, la paix et la sérénité. Voilà ce que le psaume 131 nous enseigne. Le 13e cantique des montées demande à Dieu de se souvenir de son alliance. Le pèlerin aspire à être dans le lieu de sa présence, la présence du Dieu de l'Alliance qui est représenté par l'arche du témoignage. L'Éternel a promis d'habiter Sion et le pèlerin se réjouit d'être dans la ville de David. Nous avions vu que cette phrase « Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines » rappelle tout ce que je viens de dire. Le Dieu de l'Alliance se manifeste. Éternel, souviens-toi de David et de ses peines. Nous avions vu que pour nous aujourd'hui, le dernier garant de l'Alliance, ou qui l'Alliance a été faite plutôt, garant d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Et nous disons, nous maintenant, Éternel, souviens-toi de Jésus-Christ et de toutes ses peines. C'est le psaume 132. Et le 14e cantique que nous avons vu dimanche passé met des paroles savoureuses dans la bouche du pèlerin qui chante l'unité des frères où Dieu bénit, telle l'huile et la rosée. Vous vous souvenez du thème principal, c'était le verset 1. Et peut-être que vous vous êtes dit ce texte ce matin pour venir au culte, hein. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Et quand nous serons dans la Jérusalem céleste, ce sera une unité parfaite. Et dans le cheminement que nous sommes ici sur terre, eh bien nous cheminons pour entrer dans ces relations renouvelées par la grâce de Dieu avec son aide. Voilà, j'ai pris le temps de passer par chaque cantique de ce merveilleux recueil des montées, car en nous souvenant de ces points clés, eh bien nous en sommes déjà bénis. Ce souvenir de la parole de Dieu est déjà une bénédiction pour nous. On passe souvent par le rappel de sa parole. Et nous pouvons être parfois dans une situation difficile, et une parole de la Bible vient pénétrer notre âme, et nous ne voyons plus la situation comme avant. Rien n'a encore changé, peut-être, physiquement, dans ce que nous vivons. Mais tout a déjà changé dans notre façon de voir. Parce que l'Éternel agit dans nos cœurs et nous bénit. Un exemple. Vous connaissez tous Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, qui a passé par des moments de combat redoutables, au sein desquels il se sentait parfois abattu, défait. Il était dans une grande adversité. Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire. Je la trouve intéressante ici. Un jour, son épouse se présente devant lui, vêtue de vêtements de deuil. Ce qui a interpellé Martin. Et il lui demande, mais qui est mort? Et sa femme lui répond, Dieu. Dieu! S'exclama Luther, horrifié, mais comment peux-tu dire une chose pareille? Elle lui répond, je dis simplement ce que tu es en train de vivre. Et Luther a effectivement pris conscience qu'il était en train de gérer son existence comme si Dieu n'était plus le vivant qui voulait prendre soin de son serviteur. Et cette prise de conscience, en fait, transforma son regard sur sa sombre situation et il retrouva les forces nécessaires pour continuer la lutte avec une toute autre perspective. Alors c'est vrai que notre parcours du croyant peut également être caractérisé par des vallées profondes, ténébreuses, au sein desquels notre aveuglement est devenu à ce point profond que nous ne prenons même plus conscience que le Dieu avec lequel nous avons fait alliance et qui a fait alliance avec nous, plutôt est réellement présent avec nous dans toutes nos luttes et prêt à nous secourir. En fait, une parole des psaumes des montées, par exemple, peut tout changer, peut nous rappeler qu'il existe, qu'il est là. On a vu dans ce psaume des montées plusieurs fois qui est celui qui nous délivre, vers qui regarder pour vivre dans le bonheur, enfin, etc. Et une parole d'un psaume de montée peut tout changer. Quelle grâce d'avoir ces textes, quelle grâce même d'en avoir certains dans nos cœurs, par cœur. Quelle grâce d'en avoir dans des chants qui nous reviennent parfois, que nous pouvons chanter et qui nous rappellent qui est Dieu. Quelle grâce de pouvoir être un pèlerin paisible sur le chemin qui mène vers la Jérusalem céleste, quoi qu'il arrive en chemin. Quand je dis paisible, ça ne veut pas dire tranquille, sans problème, sans difficulté. Quand je dis paisible, c'est dans la paix, même quand il y a l'adversité, dans la paix. Parce que nous savons que le Tout-Puissant est à nos côtés. Le Tout-Puissant, mes chers frères et sœurs, c'est pas juste un Dieu, c'est écrit dans la Bible qu'il existe, Hein, c'est bien sympa, il a créé les cieux et la terre, ça c'est lointain. Non, c'est le Tout-Puissant, maintenant, ici encore, puis demain encore aussi. Ces cantiques des montées sont aussi remplis d'allusions au divin rédempteur, l'époux de l'Église qui est la Jérusalem céleste. Jésus a tout accompli pour que nous puissions entrer dans le lieu de la présence de Dieu pour l'éternité. Et nous avons déjà accès au Tout-Puissant maintenant, par la prière, parce que Jésus-Christ nous a donné l'accès. Si Jésus-Christ n'était pas venu payer pour nos péchés et rendre Dieu favorable pour nous, nous ne pourrions même pas parler à Dieu. Mais Jésus a tout accompli pour que nous puissions déjà lui parler et même avoir cette espérance certaine d'être un jour avec lui pour l'éternité. C'est le bout de notre chemin de pèlerinage, hein, de notre pèlerinage, c'est la Jérusalem céleste. Et donc cette œuvre de Jésus-Christ qui nous donne la paix, qui nous donne un cœur pardonné, purifié. Et là, c'est vrai une question que j'aime à vous poser, je le fais encore aujourd'hui. Avez-vous le cœur pardonné et purifié? Vous connaissez le chemin? Le seul moyen pour y parvenir, c'est reconnaître son péché, s'en repentir et saisir l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout payé, qui donne cette pureté et qui nous met sur le chemin qui mène à la Jérusalem céleste, où nous pouvons chanter ces cantiques démontés. Le psaume 134 est le dernier de ces cantiques et il parle justement des bénédictions. Il est temps de passer à notre deuxième point qui traite de la bénédiction que nous pouvons vivre envers l'Éternel. Là, nous avons déjà dans ce premier point, en ayant vu tous ces cantiques, commencé à saisir toute la bénédiction que nous recevons. Mais maintenant, quelle est la bénédiction que nous pouvons vivre envers l'Éternel? Deuxième point intitulé « Bénissez l'Éternel ». Relisez avec moi les versets 1 et 2, donc deuxième partie après le titre du verset 1. Voici. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Vous avez peut-être remarqué que l'expression « bénissez l'Éternel » entoure cette partie, au début et à la fin. Si jamais vous pouvez le voir dans les documents qui sont à l'entrée, où chaque fois à l'arrière vous avez une petite structure du psaume et vous voyez que ça entoure en fait cette partie ici. Et cela entoure des expressions sur trois sujets qui sont abordés concernant la bénédiction dans ce texte ici. Qui est appelé à bénir? Quand? Et comment? Tout ça c'est dans le texte ici. Et nous allons voir ces trois sujets en commençant par contre par réfléchir un petit peu à la signification du verbe bénir. Que veut dire bénir? Eh bien, j'irai dans trois ou quatre directions. Bénir, c'est exprimer l'adhésion du cœur. Hein? Je te donne ma bénédiction pour ce projet, par exemple. Bénir, c'est exprimer l'adhésion du cœur. Deuxième élément que j'aimerais souligner, bénir, c'est exprimer un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Elle reçoit la bénédiction de celui qui l'a aidé, par exemple. Bénir, c'est exprimer un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Et troisièmement, bénir, et ça, je vous l'ai déjà dit dimanche passé, c'est dire du bien de l'autre. Dire du bien de l'autre. Et d'ailleurs, dans le terme bénédiction, il y a une belle illustration. On ne va pas faire de l'étymologie dans un terme français pour parler d'un terme hébreu, évidemment. Mais il y a une illustration dans le terme français. Dans bénédiction, vous avez deux parties. Béné et diction. Donc bien et dire et parler. Dire du bien. Voilà, ça on peut s'en souvenir assez facilement. Okay, c'est une belle illustration qui nous permet de nous souvenir ce que veut dire la bénédiction. Et dire du bien de Dieu, c'est reconnaître son caractère majestueux, c'est parler de ses œuvres avec fierté, avec joie. Tout cela, nous pouvons l'exprimer envers Dieu. Et c'est ce qui est en lien avec notre capacité. Nous verrons dans le point suivant ce que Dieu fait en plus lorsqu'il nous bénit. Mais par rapport à notre capacité, eh bien c'est cette adhésion de cœur, ce sentiment de satisfaction et de reconnaissance, dire du bien. Voilà ce qu'est la bénédiction envers Dieu. Il faut encore ajouter un aspect en plus pour ceux que nous venons de voir lorsque nous bénissons d'autres personnes. Bénir devient en fait invoquer la faveur divine. Comme Isaac par exemple, lorsqu'il bénit Jacob, en fait lui-même ne peut pas lui donner tout ce qu'il lui dit. Il aimerait qu'il ait des récoltes abondantes, etc. Judas ne peut pas lui donner ça. Il invoque la bénédiction de Dieu sur lui. Et c'est ce que nous faisons aussi lorsque nous bénissons d'autres personnes. Nous invoquons la bénédiction de Dieu sur eux, afin qu'il lui accorde ses bienfaits. Mais c'est vrai que cet aspect de la bénédiction, eh bien, nous ne l'invoquons pas face à Dieu. Lui, il a déjà tout. Voilà, donc ça c'est la réflexion sur la notion de bénir. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir ce que signifie bénir Dieu de notre part. Maintenant, qui doit bénir ? Eh bien, dans ce texte, nous le voyons. Le pèlerin, en chantant le psaume 134, s'adresse à des personnes précises lorsqu'il dit « bénissez l'Éternel ». Il dit « bénissez l'Éternel » et il y a quelque chose qui suit ensuite. « Bénissez l'Éternel, vous ». De qui est-il question ici ? Il parle des serviteurs de l'Éternel. Il parle des serviteurs de l'Éternel, de ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel. Il parle des serviteurs de l'Éternel, de ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel. Et dans la pensée du pèlerin de l'Ancien Testament, il s'agit certainement des prêtres et des lévites qui œuvraient dans le temple. Et c'était une grande organisation qui impliquait beaucoup de monde. Dans les divers stages dans le temple, qui allaient du nettoyage à la gestion du matériel, en passant par les gardiens de l'ordre, particulièrement aussi les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices. Et il y avait aussi ceux qui lavaient les vêtements, ceux qui s'occupaient des repas, des chambres, ceux qui s'occupaient du feu de l'autel, ceux qui ouvraient et fermaient les portes, ceux qui chantaient et jouaient de la musique, etc. Ça fait quand même pas mal de monde. C'est une grande organisation. Et le pèlerin, durant tout son voyage, s'est réjoui d'arriver dans la présence de Dieu. C'est son but, c'est son désir. Et il indique maintenant que ceux qui sont dans cette présence sont appelés à bénir l'Éternel. Lui, il s'en réjouissait. Et là, il va bénir l'Éternel dans ce lieu. Et il dit à ceux qui y sont, bénissez-le. Bénissez-le. Parce qu'il peut arriver que dans les tâches, dans le temple, eh bien, qu'on commence à oublier qu'on est là pour bénir Dieu, pour le glorifier. Toutes ces personnes que j'ai mentionnées précédemment dans le temple sont premièrement là pour bénir l'Éternel, pour le glorifier. Et toute leur action, en fait, sera simplement une manifestation de ce désir et de cette action qu'ils font envers Dieu. Qui est le serviteur de l'Éternel par excellence ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est au-delà du voile et qui représente le lieu très saint du temple où Jésus est entré dans les lieux célestes. Comme il est dit dans Hébreux 6, j'aime bien ce texte, je vais vous le lire, Hébreux 6, 19 et 20, qui dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. » Et c'est vrai que dans un sens actuellement, les pèlerins que nous sommes sont en train de dire à ceux, plutôt là, celui qui est dans le sanctuaire céleste, bénis l'Éternel. C'est lui qui bénit l'Éternel et souhaite la bénédiction à tous les pèlerins qui se dirigent vers Jérusalem. Parce que comme nous le verrons, le verset 3, c'est comme une réponse de ceux qui sont dans le temple qui disent ben, « Que l'Éternel te bénisse de Sion. » Et bien là, comme c'est Jésus-Christ qui est dans le temple, il bénit l'Éternel, mais il souhaite aussi la bénédiction pour tous les pèlerins qui se dirigent vers la Jérusalem céleste. Un autre aspect qu'on peut aussi souligner, puisqu'il y a le déjà, pas encore, on a déjà vu ça un peu ensemble. Et dans le déjà, eh bien, le Nouveau Testament indique que celui qui est en Christ est une pierre vivante qui fait partie de la construction de la maison de Dieu et que le chrétien est un sacrificateur au service de Dieu. C'est, par exemple, 1 Pierre 2, 4 et 5 qui dit cela. Il a dit ceci, « Approchez-vous de lui, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, c'est-à-dire des sacrificateurs, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Cela signifie que dans la Nouvelle Alliance, le psaume 134 nous est adressé aussi à la suite de Christ. Nous sommes les serviteurs de l'Éternel et nous nous tenons dans la maison de l'Éternel. Que veut dire bénir ? Qui est appelé à bénir ? Et maintenant, comment ? Comment ? Eh bien, le psaume nous dit à tout moment, Bon, il ne le dit pas exactement comme ça. Mais on va le voir. Il dit à tout moment. Parce que le psaume 134 donne une indication du moment où il faut bénir l'Éternel. Il dit pendant les nuits. Et en fait, cela inclut le jour. Et si la nuit est au pluriel, c'est sûrement parce que la nuit était divisée en plusieurs veilles. Et ainsi, chaque veille est concernée. Il faut savoir que la vie au temple ne s'arrêtait pas la nuit. Par exemple, le feu de l'autel ne devait jamais s'éteindre. Il est dit aussi en 1 Chronique 9, 33 que les chantres, ceux qui chantaient et jouaient des instruments, étaient à l'ouvrage jour et nuit. Et dans Luc 2, nous avons une description, une des plus détaillées du Nouveau Testament concernant une femme. En fait, il nous a donné son nom, le nom de son père, de sa tribu, la durée de son mariage et son âge. C'est pas mal d'informations. Mais il en a donné encore une autre, c'est ses occupations. Et c'est ce qui nous intéresse en fait ici. Il est dit dans Luc 2, 37, que Anne ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Était-elle 24 heures sur 24 dans le temple? Nous ne pouvons pas tirer cette conclusion du texte. Par contre, nous pouvons comprendre qu'il y a une activité continuelle au temple. Et comme le temple est une représentation de ce que signifie la présence de Dieu, nous pouvons retenir que le temple était toujours en fonction selon la parole de Dieu, lorsqu'il était vécu selon la parole de Dieu, et toujours ouvert et accessible. Ce qui me fait penser aussi à Apocalypse 7, 15, qui parle de ceux qui viennent de la grande tribulation. Il dit, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Jour et nuit dans son temple. Et c'est ce que nous vivrons pour l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, non pas comme un culte du dimanche matin éternel. Je ne crois pas que ce sera comme ça. Dans l'esprit, oui, parce qu'on adore l'éternel. Mais en fait, il y aura de l'activité, nous serons actifs. Et nous travaillerons, mais sans peine. Et pour la gloire de Dieu, comme tous ceux qui sont actifs dans le temple. Et en attendant ce jour, étant également les serviteurs de l'éternel, étant le temple du Saint-Esprit, à quel moment êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Entre 9h et 4h? En fait, il faut vous dire que vous êtes appelé à bénir l'Éternel à chaque moment où vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et comment faut-il bénir le Saint-Esprit? Enfin, l'Éternel plutôt, hein, dans ce texte, puisque le psaume 134 nous le dit. Comment bénir l'Éternel? Eh bien, il le dit, regardez au verset 2. Le pèlerin le chante. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Donc comment? En élevant nos mains vers le sanctuaire. C'est ainsi qu'on bénit l'Éternel. En élevant nos mains vers le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où des sacrifices sont offerts pour le rendre propice envers les pécheurs. Et Jésus-Christ, en étant le souverain sacrificateur, et le sacrifice lui-même, a élevé ses mains vers le sanctuaire, une fois pour toutes, pour rendre Dieu propice envers les pécheurs qui se repentent et qui croient en son œuvre. Donc, Jésus-Christ lui-même a en un sens élevé les mains vers le sanctuaire. Et il a tout accompli pour que Dieu soit rendu propice. Vous vous souvenez, dans le sanctuaire, il y avait le propitiatoire, hein, il y avait le sacrifice aussi qui était, le sang du sacrifice qui était aspergé pour rendre Dieu propice. Et Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et le terme qui a été traduit sanctuaire peut aussi vouloir dire saint. Quand il a dit « Élevez vos mains vers le sanctuaire », en fait, dans la langue originale, vous avez « Élevez vos mains, saint ». Et en fait, il n'y a pas de particule de direction, hein, qui dit « vers » ou « en direction de ». Donc nous pourrions aussi lire de manière tout à fait juste ce psaume en disant « Élevez vos mains saintement ». Et ça vous fait sûrement penser à un texte dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 2,8, où l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant les mains pures, sans colère ni contestation. » C'est la seule attitude possible pour bénir, en fait. Hein, si nous n'avons pas les mains pures, nous ne pouvons pas bénir, tout simplement. Hein, les mains symbolisent nos actions. Et en fait, pour bénir Dieu dignement avec nos bouches, il faut que nos actions soient pures, des mains saintes. Et chacun comprend l'importance de la cohérence entre les paroles et les actes. Si quelqu'un vient à vous frapper à coups de poing avec rage et vous dit « Ah, mais je t'aime, tu es tellement précieux pour moi », ces paroles n'ont aucune valeur et n'exprime pas la vérité de son cœur qui se manifeste, même message, si vous bénissez Dieu et que vous ne vivez pas selon sa parole. Comment bénir l'Éternel? En élevant nos mains vers le sanctuaire et en le priant de nous purifier de tout mal en saisissant l'œuvre de Christ. Ainsi, aucune critique, aucune contestation face à son action ne viendra ternir notre reconnaissance et nous dirons uniquement du bien de Dieu. Nous dirons uniquement du bien de Dieu. Lorsque nous sommes purifiés, nous ne disons que du bien de Dieu. Même si on ne comprend pas tout ce qu'il fait. Ça, bénir Dieu. Ces deux versets nous ont permis de comprendre un peu plus qui est appelé à bénir, quand et comment. Bénir l'Éternel va en fait appeler sa bénédiction. Cette bénédiction de Dieu, nous sommes appelés à la souhaiter. Quand vous bénissez Dieu, cela appelle en fait sa bénédiction. Nous pouvons même la donner aux autres. Et en cherchant à donner la bénédiction de Dieu, nous ne perdons rien. Moi, j'aime la logique de Dieu. On donne et on perd rien. En fait, on reçoit encore en plus. Nous augmentons la bénédiction lorsque nous cherchons à la donner aux autres. C'est le sujet de notre dernier point qui sera plus court. Que l'Éternel te bénisse. Verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Si le pèlerin chantait « Bénissez l'Éternel », les serviteurs de l'Éternel lui répondent « Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Alors, comme promis, nous revenons sur la bénédiction avec les capacités de Dieu en plus. Quand Dieu bénit, il accorde ses faveurs et ses grâces. Nous ne pouvons rien accorder à celui qui a déjà tout et qui est parfait. Ce que nous lui donnons ressemble à ce qu'un petit Liam d'un an fait en entourant la jambe de son père. Mais souvent, le père prend le petit dans ses bras, et même si l'enfant ne peut pas réellement le prendre son papa dans les bras, lorsqu'il fait le geste de l'entourer, nous considérons qu'il le prend dans ses bras. C'est ainsi que Dieu voit notre expression de bénédiction à son égard. C'est juste fantastique. Lorsque Dieu bénit, lui peut réellement accorder ses bienfaits, protéger, donner ce qui est le meilleur selon sa sagesse et sa bonté. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Le texte le dit, c'est pas pour rien que c'est écrit ça, c'est pour dire il peut tout faire. Donc il peut vous bénir. Et là, voyons ensemble un petit peu ce que cela signifie. Et là, les enfants, vous avez à noter. Quand Dieu bénit, c'est par pure grâce. Jamais sur la base de nos mérites supposés. Quand Dieu bénit, c'est par pure grâce. Quand Dieu nous bénit, il nous donne ce que nous n'avons pas. Quand Dieu bénit, il nous donne ce que nous n'avons pas. Et quand Dieu bénit, il fait de nous ce que nous ne sommes pas. Il fait de nous ce que nous ne sommes pas. En fait, quand Dieu bénit, il fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Il nous renouvelle entièrement par son esprit. Il nous accorde le salut éternel et qu'il nous est impossible d'acquérir par nous-mêmes, il fait de nous ses enfants, les héritiers de son royaume. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais lui le peut et le fait. Quelle grâce. Nous avons absolument besoin de la bénédiction de Dieu. Nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés, recréés par la grâce et la puissance de Dieu. Sans la bénédiction, tout ce qui reste, c'est la bénédiction et le jugement. Comme il est dit dans 3:36, hein, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, la bénédiction. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu. Il n'y a que deux états possibles, être sous la bénédiction ou sous la malédiction. Et pour ceux qui rejettent le Seigneur et qui refusent de croire et d'obéir à sa parole, c'est la malédiction qui demeure sur eux, et l'amour éternel. Oh, que le Seigneur change les cœurs et transforme. Nous dépendons entièrement de la bénédiction de Dieu pour notre vie aujourd'hui et pour l'éternité. Désirons donc cette bénédiction comme le trésor le plus précieux. Est-ce que vous désirez la bénédiction de Dieu? Quelle grâce de savoir que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est lui-même qui nous dit que l'éternel Sion, son lieu de résidence, mais aussi sur terre, ce lieu de sacrifice où j'ai payé pour celui qui croit. Sion, c'est le lieu de sacrifice aussi, où Christ a payé. Donc, quand il est dit que l'Éternel te bénisse de Sion, cela sort aussi de la croix sur nous. Que l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, donc qui est le Tout-Puissant, le Souverain, le Sage, qui a la capacité d'accomplir ce qu'il dit, que l'Éternel donne sa bénédiction. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus a fait en dernier avec ses disciples avant d'être enlevé au ciel? Bon, le thème du jour vous aide, hein, bien entendu. Il les a bénis. C'est la chose qu'il faisait lorsqu'il a été enlevé. Il a béni ses disciples. Quel rafraîchissement. En conclusion, Spurgeon disait « Puisse bénir et bénédiction être les deux mots qui caractérisent notre vie. » Bénir, c'est-à-dire vivre une vie qui glorifie Dieu, qui le bénisse, et bénédiction, qui trouve sa joie dans les bénédictions de Dieu. Parce que vous savez, nous bénissons toujours quelque chose, que ce soit notre réputation, notre aisance financière, nos capacités et tant d'autres choses, si ce n'est pas Dieu. Et nous cherchons toujours à être bénis par ceux qui nous ont en haute estime, par nos moyens financiers, par notre labeur ou tant d'autres choses, si ce n'est pas Dieu. Alors cette semaine, cherchons à bénir Dieu par la reconnaissance et l'applaudissement. Attention, je ne dis pas que vous devez applaudir physiquement, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est d'applaudir Dieu dans ses œuvres par notre attitude, par l'importance que nous lui donnons, par l'estime et l'honneur que nous lui portons. Et nous pouvons le faire tout pratiquement en disant à quelqu'un, chaque jour ou parfois, hein, une chose que Dieu a fait pour vous et devant vous le jour précédent, par exemple. Ou bien en écrivant dans un petit carnet ce qu'il a fait. Ça, je vous encourage, parce que dans les moments de découragement, c'est ce genre de petit carnet qu'il faut aller lire. La parole de Dieu, évidemment. Ce genre de petit carnet qui montre comment Dieu agit dans votre vie. Il avait agi dans ma vie ce jour-là. Il m'avait permis de voir ceci, il m'a permis de comprendre cela. Il m'a permis simplement d'avoir la bonne idée pour la situation dans laquelle j'étais, enfin, etc. Mais vous pouvez aussi le faire tout simplement le soir. Je vous encourage à le faire le soir quand vous couchez, de réfléchir à la journée et de dire quelle a été là où les bénédictions de Dieu pour moi. Et de simplement le remercier. Ou bien en le chantant. Enfin, il y a tellement d'idées, hein. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'idées, mais simplement d'applaudir quelque part la bénédiction de Dieu, ou plutôt d'applaudir l'action de Dieu, qui est en fait bénir l'Éternel. Ainsi, vous vous réjouirez, et en même temps, les bénédictions de Dieu à votre égard encourageront ceux à qui vous le partagerez, et vous bénirez ainsi l'Éternel. Terminons avec l'encouragement du psaume 103, qui ensuite développe, donc dans le psaume 103, vous avez là, un impératif, quelque chose qu'on est appelé à vivre. Et ensuite, dans le psaume 103, la suite nous indique pourquoi il dit ça, les indicatifs, sur quoi on se repose. Alors, je garde juste l'impératif pour nous maintenant, mais le psaume 103, relisez-le, c'est le psaume de comment Dieu nous pardonne, hein, il est juste extraordinaire. Mais j'aimerais terminer par ceci. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions. Éternel, nous voulons, il est vrai, entrer dans ce cheminement de te bénir. Oh, je me sens souvent bien maladroit quant à relever ta grandeur, tes actes magnifiques, ton œuvre qui nous dépasse. Mais Seigneur, nous voulons le faire avec ta grâce et ta force. Dire du bien de toi. Oh Seigneur, nous implorons ta force, ta grâce, pour que nous le fassions régulièrement. Parce que cela nous permet de aussi grandir dans l'amour que nous éprouvons pour toi. Et Seigneur, nous te louons et t'adorons pour ta bénédiction qui repose sur tes enfants. Seigneur, elle est multiple. Et même parfois, nous sommes ingrats et nous ne les voyons pas, tes bénédictions. Et nous te prions de nous aider à les voir, à les saisir, à les proclamer, à nous en réjouir, à les partager. Et Seigneur, comme les serviteur de l'Éternel dans le temple, de pouvoir dire aussi autour de nous que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, sois loué et béni. Conduis-nous dans cette journée, dans cette semaine, qui est devant nous, afin que nous puissions vivre ce que nous avons entendu ce matin, tiré de ta parole. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.